Bonjour à tous et bienvenue dans L'Art, c'est les autres. Moi, c'est Leslie Lucier et je fais partie du réseau des artistes Pigeons et Hirondelles qui est basé dans Lyon. Dans ce podcast, je vais à la rencontre des acteurs du monde de l'art. Ce sont des passionnés qui vont nous aider à décrypter les milieux de l'art contemporain. Pour tous ceux comme moi qui ont envie d'y évoluer. Alors mon objectif, ça va être de remettre mes connaissances, mes jugements en jeu, grâce à ces mentors qui, pendant quelques dizaines de minutes, vont nous donner de précieux conseils, vont nous donner leur philosophie et tout ce qu'ils mettent en place dans leur quotidien et qu'on pourra appliquer, pourquoi pas, à nos propres projets. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à commenter les épisodes sur votre appli de podcast. C'est ce qui me donne le plus envie de continuer. En tout cas, merci d'être là et je vous laisse avec l'épisode de la semaine. Alors, est-ce que tu peux te présenter ?
Alors, moi, je m'appelle Isabelle Berthelot. Je suis à la galerie, à la fois responsable de la programmation, mais je suis aussi plasticienne, porteuse de projets et peintre. Mm-hmm. Et avant, je venais du cinéma. Mais cela dit, cette aventure ici, la galerie, c'est aussi une histoire. Je suis pas du tout toute seule. La fondatrice, c'est ma sœur, qui est photographe. On est dans son ancien studio de photo qu'elle a transformé en galerie, donc ça partait d'une idée d'elle.
Donc la galerie, juste pour rappeler, elle est dans...
Aiguillage, et au sein de l'Aiguillage Galerie, c'est un lieu d'art et d'exposition au Frigo de Paris, mm-hmm. qui est lui-même un lieu, un site de créateurs en tout genre. On est une centaine de plasticiens, musiciens, créateurs, avec incluant aussi d'ailleurs une mixité, une vraie mixité, des métiers d'art aussi, des studios de design, aussi de la marginalité qui ne rentre pas dans un cadre, mais qui est quand même, voilà. Mais disons, principalement, on est quand même plasticiens, musiciens, ouais. Et puis avec plein d'autres choses qui se passent, et on est une centaine, et 250 usagers, donc c'est quand même pas rien. Et surtout, on existe depuis 30 ans. On est un peu le dernier lieu survivant, le dernier village de Gaulois, on va dire. Maintenant entouré d'immeubles, de trucs, etc. De cette longévité et cette importance en diversité et en métier et en voilà. Mmh. Peut-être j'espère aussi une certaine qualité. Voilà.
Ok. Et ça veut dire que tous les artistes qui sont là, tu te dis qu'il y en a une centaine, un espace à eux.
Oui.
Ici.
Alors maintenant c'est plutôt un peu 80 parce que ça a un peu diminué. Et il y a aussi des ateliers qui sont en copartage ou en colocation. Mmh. Et il y a les usagers, quand par exemple tu as l'Union des musiciens de jazz, eux, il y a des tas de gens qui viennent répéter dans leur studio ou des groupes de musique. Et voilà, en usager, c'est 250 oui. qui circulent, ou un atelier de textile, ou un groupe de théâtre, ou un truc de swing. Bon, voilà, ce qui fait qu'on parle aussi, il y a les locataires officiels, entre guillemets, puisqu'on est locataires, les historiques, on peut dire, les légitimes aussi, entre guillemets, ouais. ou pas, entre guillemets, parce qu'on s'est aussi beaucoup battu pour garder ce lieu. Et s'il existe encore, c'est grâce à nous, sinon ça serait transformé en bureau depuis longtemps.
Voilà. Vous n'avez pas été aidé spécialement ?
Non, on a même été plutôt menacés.
Ah oui ?
Ah oui, plusieurs fois de destruction, sur des plans d'architectes, sur les restructurations de la zone. On s'est beaucoup battu pour continuer à exister. On a fait des pétitions, on a fait jouer nos amis journalistes. À l'époque, on était jeunes et actifs. Non, ça ne nous a pas aidés. Et on continue pas vraiment à nous aider, d'ailleurs. Mais ouais. Bon.
Imaginons, moi, je suis artiste et j'ai envie d'intégrer les frigos. Est-ce que c'est possible ou pas ? Est-ce qu'il y a une liste d'attente ?
Alors, ça a changé par rapport au fait que quand avant on dépendait de la SNCF, c'était ouvert à tout le monde. En fait, tu pouvais, alors évidemment, les gens qui voulaient aller dans ce lieu-là étaient forcément plutôt des gens qui étaient liés à l'artistique, à l'underground, et toi, t'as une super société en bourse, tu vas pas te mettre ici. Donc voilà, ça attirait ça, mais en même temps, c'était pas bon. Après, quand tous ces lieux ont tous été occupés par des artistes, ça s'est plutôt fait entre nous. Et que je t'échange mon atelier du troisième parce que maintenant j'ai mal aux jambes et que je peux plus porter mes sculptures, ou que j'ai besoin d'un truc plus petit, ou que j'ai plus d'argent, ou que j'ai besoin d'un truc plus grand. Et ça fonctionnait un peu en interne. Ouais. Et là, on a été récemment racheté par la ville de Paris en 2003. Donc là, évidemment, tout ce joyeux bordel s'est un peu arrêté. Mmh. Ça a été un peu la fin aussi de la période de liberté, libertaire aussi des frigos. Et où les choses sont rentrées, entre guillemets, dans des petites cases, puisqu'on avait un propriétaire, désormais, un bailleur, et que c'était plus la SNCF, qui était assez rock'n'roll aussi, et surtout qui s'en foutait un peu à l'époque, parce que c'était pas son job, c'était pas de faire des ateliers d'artistes. Oui. Elle voulait faire rentrer un peu de pognon, et ça plaisait aux artistes, ça clinait un peu le quartier, ça boboisait un peu l'ensemble, c'était parfait.
Ouais.
Mais ils avaient pas de visée, ni politique, ni financière, super élevée. Voilà. Et ils faisaient d'ailleurs rien comme travaux, comme dans leurs obligations de propriétaire, ils faisaient que dalle. Finalement, c'était une période aussi d'une certaine bienveillance et de liberté. Un peu rock'n'roll, ça c'est vrai, mais bon, et après tout ça a changé évidemment. Mais en même temps, l'arrivée de la mairie nous a aussi apporté la sécurité, entre guillemets, la pérennité du lieu.
Et oui.
Donc c'était l'assurance qu'on n'allait pas être détruit pour construire autre chose.
Et ils ont sécurisé un peu les bâtiments ?
Un petit peu, oui. Oui, parce que là, ils étaient obligés, vu qu'ils étaient responsables pénalement. Et il reste encore plein de zones où on n'a pas le droit de recevoir du public alors qu'on en reçoit depuis 30 ans. Je pense qu'on a dû recevoir, depuis qu'on existe, les frigos entre 500 000 et 1 million de personnes. Tous les politiques de la terre sont venus, les maires, les officiels, les tout bons, les machins. Mais comme on n'est pas aux normes, officiellement, on ne peut pas recevoir de public. Il y a tout ce décalage entre un discours comme ça normé, administratif et très très cadré, et puis la vraie vie. En fait, la vraie vie des artistes qui est globalement un peu un bordel, oui. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on a choisi, et un peu hors cadre, hors champ, justement, de toutes ces normes et de tout ce cadre. Et où on s'arrange dans la précarité, dans la fantaisie, dans la démerde, dans des boulots secondaires et l'entraide parfois aussi. Donc, il y a sans arrêt un peu maintenant cette lutte sur mais là, vous nous empêchez d'être rien d'autre que des artistes, et être juste des artistes en tant que tels dans un atelier où tu vois personne et que tu vends pas et où on connaît pas, c'est pas très intéressant. Puis surtout, on meurt.
Oui, tout à fait.
On meurt et on vieillit en plus, donc ce qui est pas cool. Ça va pas aller en s'arrangeant, l'histoire, vu qu'on était jeunes il y a 30 ans, quand on a squatté au tout début et qu'après on a loué. Et maintenant, le lieu, bah, il évolue aussi vers une population qui est plus jeune. Mais si vous nous permettez pas ni de la rafraîchir, ni de l'ouvrir, ni de la faire sortir de son propre cadre pour aller dans la société civile, citoyenne, locale, ça va pas nous aider. Donc voilà, on en a un peu là, on a toujours des conventions précaires d'habitation depuis 20 ans. Donc ils ont construit des nouveaux ateliers d'artistes ici dans une restitution d'ateliers préalables, et les loyers sont beaucoup plus hauts au prix du mètre carré. Et en fait, ça va pour des artisans d'art, notre clientèle qui sont auto-entrepreneurs, mais pour des artistes, ça nous met en danger, puisqu'on est déjà dans la précarité. Donc on accepte de monter un petit peu, on a fait un compromis, on va monter de 20 € par mètre carré en plus, mais en fait après, au-delà, ça nous fragilise tellement que ça risque en fait de virer tous les artistes, une bonne partie des artistes qui sont juste à ce seuil comme ça, tu vois, d'équilibre depuis 20-30 ans. On va garder que les artistes riches, ou ceux qui ont une activité à côté, ou des biens à côté, qui ont de la fortune personnelle, qui sont artistes, mais aussi parce qu'ils peuvent se le permettre. Donc, est-ce que c'est une vraie bonne définition de ce que doit être un artiste vivant, prolixe, imaginatif, et surtout dans un milieu varié, un vivier propice? Moi, je suis pas sûre.
Et c'est eux qui choisissent les...
Là-bas, c'est sur candidature. Donc maintenant, si toi, tu demandais, pour te revenir à cette longue parabole, là, on passerait par... T'as 5 entités devant toi. Donc, ils lancent un atelier, ils le mettent en ligne, sur le site de la mairie de Paris, j'imagine, et tu déposes un dossier de candidature. Et là, t'as 5 ou 6 entités. Donc nous, on a une voix. Alors, on a des recommandations, on a un comité d'attribution, et ce comité d'attribution fait une recommandation. Et t'as en face de toi la mairie de Paris, la mairie du 13e, t'as la DAE, qui est notre gestionnaire, la DAE qui est le gestionnaire, le bailleur en fait, et puis tu dois avoir la DRAC, la Direction des Affaires Culturelles, et en fait, sur mérite, sur revenu, faut pas que tu sois trop pauvre non plus. En fonction de ça, il y a un vote, et puis d'une certaine manière, que le meilleur gagne, ou celui qui est le plus probant, aux yeux de toutes les intervenants et votants en présence.
Okay.
Ça s'est plus démocratisé d'une certaine façon que ça l'était avant avec nous. Il y avait aussi beaucoup de favoritisme et puis de choses aussi d'amitié, de convivialité qui se faisaient, de bon sens. Bah oui, lui là, il est vieux, maintenant il a mal au dos. Moi, je peux aller au 5e. Lui, par contre, il faut qu'il ait un atelier au 1er. Tu vois, c'est aussi de la vie tout ça.
Ouais, tout à fait.
Mais c'est vrai que c'était un peu opaque. C'est plus objectif.
Oui.
Voilà. Et puis surtout, c'est ouvert. C'est-à-dire qu'en effet, n'importe qui peut acter,
postuler,
défendre son dossier, son point de vue, essayer d'avoir un atelier au frigo. Okay. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, moi, je trouve.
Mais est-ce que c'est le même circuit que les ateliers qui sont attribués par la mairie, les appartements ateliers et les ateliers d'artistes?
Alors, à mon avis, on se rapproche de plus en plus d'une politique non seulement municipale, mais même européenne, sur les ateliers d'artistes, malheureusement, dont un des trucs qui est en train de disparaître aussi de plus en plus, c'est l'atelier logement.
Oui.
Parce qu'en fait, les instances, ils n'en veulent pas. Et à Paris, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas construit, ils n'ont construit aucun atelier logement. Parce qu'évidemment, quand qui dit atelier logement dit pérennité. Certains temps, plus enfants, plus normes, plus ceci, tu vires pas les gens du jour au lendemain. Et ça arrange pas du tout l'État. Parce que eux, en fait, leur rêve, ce qu'ils essayent d'appliquer, c'est ce qu'ils font au 59, rue de Rivoli, c'est ce qu'ils font dans les nouveaux M1D, artisans d'art et machin, c'est des petits trucs pas pérennes, où tu fais des, tu vois, t'es 1 an, 2 ans, oui. Puis au bout de 3 ans, tu te représentes à ta candidature, mais t'es en concurrence, principe de la concurrence capitaliste, avec les autres demandes de trucs. Donc, mais t'es pas forcément reconduit. Tu dois remontrer patte blanche, t'es revenu, puis s'il y a quelqu'un qui présente mieux que toi, et ben, au bout d'un an, 3 ans, 2 ans, on te vire. Et en fait, c'est ça qu'ils sont en train d'essayer de nous appliquer. C'est cette norme européenne pour tous les ateliers qui seraient des espèces de vitrines, résidences d'artistes, turnover, tu vois, où personne reste vraiment, un peu comme si on était des forains ou des start-up ou des incubateurs, où les artistes sont un peu assimilés à des auto-entrepreneurs ou des forains, ou qu'on éjecte au bout d'un moment et qu'ils vont faire ailleurs leur trajectoire.
Oui, oui.
Mais sauf que nous, en tant qu'artistes, c'est pas du tout le même. C'est un chemin, c'est long. On a besoin d'un nid, parce que tout est incertain et tout est précaire dans notre vie. Et il y a le seul truc sur lequel on peut avoir un refuge et une certaine sécurité, entre guillemets, c'est le lieu où on se pose et on crée. Ouais. Et si tu nous enlèves tous les 2 secondes comme un tapis des pieds, et puis de toute façon, tu crées pas forcément en 1 an, ni en 2, ni en 3, enfin voilà. C'est une maturation, c'est un espace, c'est un esprit, c'est un chemin. C'est pas une obtention, on n'est pas une start-up, on n'est pas des forains, on n'est pas des intermittents du spectacle, enfin tu vois, on n'est pas des intérimaires non plus, et la résidence d'artiste, c'est un tout autre principe. Mais eux, c'est cette vision libérale qu'ils ont de l'art auto-entrepreneur, auto-start-up machin, tu vois, qui passe d'un endroit à un autre, puis après, hop, on met ceux qui sont bien, qui font bien pour les vrais, ceux qui sont à la mode, ou ceux qui sont connus. Et on crée un projet politique, en fait, de l'art conceptuel, de l'art et du street art, enfin, des choses en plus qui est à la mode aussi dans les instances, au niveau des subventions, au niveau de la politique de la ville. Et là où ça m'a un petit peu atterré, c'est que moi, je pensais que c'était propre peut-être à Paris. Mais en fait, je me suis rendu compte, donc, quand on a rencontré des députés, des politiques, des professionnels, en fait, de ça, que c'est un projet européen. De définir en fait une norme un peu globale européenne sur les ateliers d'artistes. Ouais. Berlin, Angleterre, Londres, Paris, voilà, et que ça soit un peu quelque chose d'uniformisé.
Mais c'est peut-être pas mal pour les Français, non ?
Ah non, c'est pas bien du tout, parce que c'est sur une base d'éjectabilité, de précarité permanente.
Ah oui, d'accord.
Et de non-pérennité, parce que la ville n'a absolument pas intérêt. Parce que ce qu'elle veut aussi, c'est que ce soit rentable. Donc, pour que ce soit rentable, il faut qu'il y ait du turnover, il faut qu'il y ait des petites surfaces, des petites durées, qu'il n'y ait pas trop de normes, qu'on n'y habite pas, et que ça soit un peu, tu vois, que ça tourne tout ça.
Tu crois que ce serait possible de mettre ça en place à Édimbourg, à Berlin, à Londres?
Mais c'est ce qui se passe en ce moment à Édimbourg, c'est ce qui se passe à Berlin, c'est ce qui se passe à Londres. Édimbourg, tous les artistes sont en train de se faire chasser par les spéculateurs immobiliers qui récupèrent tout le truc, et il n'y a plus de logement d'artistes, et il y a des petites vitrines, des machins, Puis l'idée, c'est que, mais faites un peu du mécénat, allez vous renseigner du côté du privé. L'État se désengageant entièrement de la partie publique, comme dans toute chose, hein, pas seulement l'art. Hein. C'est un peu le principe, soyez tous autant entrepreneurs, c'est le super rêve, quoi. Sauf que la démarche artistique, c'est pas ça du tout. C'est une vraie méconnaissance et que du coup, ça crée aussi la disparition de tout ce vivier un peu marginal, qui était un vrai terreau. Et qui est en train de vivre non seulement en dessous du seuil de pauvreté, mais là, en train même de partir, parce qu'il n'a plus les moyens d'être artiste, et il ne peut plus continuer. Et ça, c'est une perte, à mon avis, très grave pour la richesse du substrat artistique global, dans sa diversité, dans sa profondeur, et dans tout ce qui le constitue. Depuis, les artistes, ce n'est pas fait pour être rentable. Jamais, ça ne l'a jamais été, ça ne le sera jamais. Maintenant, tu peux créer une espèce de caste, d'artistes, artisans, start-up, incubateur, machin, qui tournerait au bon vouloir du prince, qui ferait un peu de l'animation pour la ville, tu vois aussi. On vient voir les artistes travailler comme au 104, comme un peu des singes. T'as un atelier, mais en échange, tu rends service à la ville, hein, parce que t'as super de la chance d'avoir un atelier pas cher. Donc t'as des heures en plus, on vient de voir travailler, mais tout le monde n'a pas forcément envie qu'on vienne le voir travailler. Et pas fait pour l'animation,
C'est pas le même métier.
Pas le même métier, on n'a pas forcément envie. Bon, ça veut pas dire qu'on est contre. Moi, personnellement, j'aimerais bien qu'ici, tout le rez-de-chaussée soit, c'est un peu le projet de la mairie du 13e, mais aussi d'une autre, l'Aiguillage, que tout le rez-de-chaussée soit ouvert au public. Ça serait quand même autrement plus sympa qu'il y ait d'autres galeries, d'autres restaurants, d'autres lieux. Et quand les gens viennent, au lieu de trouver porte close, ben, tout le rez-de-chaussée soit avec des artistes qu'ils veulent bien. Puis ceux qui veulent pas, ben ils vont dans les étages, ils font leur truc, ouais. Ils ont besoin de ça. Mais nous, on peut aussi rendre une partie de ce que la ville et l'État nous laissent défendre, parce qu'il nous a pas vraiment beaucoup donné. Mais on pourrait dire oui, c'est vrai. Pendant des années, on a bénéficié d'un statut, mais il fallait vraiment vouloir habiter ici ou travailler ici. Oui. Et à part les artistes et les marginaux, je vois pas qui voulait, hein, parce que c'était quand même juste la zone. Il y avait rien en plus autour, donc c'est no man's land, quoi. Et maintenant, il faudrait qu'on parte en périphérie de banlieue pourrie, à Perpète-les-Oies, où il n'y a plus, tu vois, toujours le même principe, la gentrification de Paris. Donc, il y aura les artistes gentrifiés, bankable, ou politiquement corrects, comme les street artistes, les jeunes, tu vois, les minorités, tout ça, ça se fait très bien. Puis tous les autres, des arts visuels classiques, des beaux-arts, tout ce qui constitue quand même l'essentiel aussi du flux artistique. Ceux-là, ils vont être bien dans la merde pour continuer d'exister, avoir des lieux. Tout est payant, sauf là, sauf la culture. Ton steak, ta baguette, personne te demande de la donner gratuitement.
La culture est payante, c'est juste l'artiste qui est pas rémunéré.
Voilà, donc j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc on est le seul corps de métier, je crois, qui sommes taillables et corvéables, normalement à merci, juste sur notre talent, notre puissance, notre énergie, sans qu'on puisse en retirer des espèces trébuchantes et arriver à en vivre à peu près décemment. On n'a pas su créer, à part l'aiguillage, où nous, on avait vraiment une volonté d'ouvrir les frigos sur autre chose, sur le local, sur le voisinage, mais même les entreprises, les voisins, le café d'à côté, la ménagère du coin, et pas rester, clair, c'est pas un truc juste dédié aux artistes et aux amateurs d'art. Du coup, on a toujours fait un bar, un lieu où on peut manger pour la convivialité. C'est-à-dire que on n'est pas un restaurant, on est une galerie, d'abord, un lieu d'exposition, si on veut pas mettre un terme prétentieux, mais on inclut la convivialité, la vie, la bouffe, la musique, la fête, et parce qu'on aime ça aussi, nous, et que ça fait partie de l'art. Ça donne quelque chose d'assez démocratique, assez ouvert. On amène une clientèle aussi qui n'aurait pas forcément été intéressée ou sensibilisée à l'art via la vie, la musique, la proximité, à venir, du coup, voir et à échanger avec les artistes, avec les œuvres. On travaille vraiment sur la mixité par rapport à l'art, pour pas en faire un truc, tu vois, réservé aux élus et aux quelques élites qui prisent ça, mais où le reste de la population s'en branle grave, quoi. Donc là, on a un vrai travail de terreau là-dessus, parce que ça nous correspond, parce qu'on est nous-mêmes des artistes et qu'on est nous-mêmes ouverts. Et que nous, on adorait qu'il y en ait plus des gens comme nous qui aient même d'autres aiguillages, tu vois. Ouais. Aiguillage, c'est vraiment ce terme-là, tu vois. C'est un hub et il y a plein de trucs qui partent de partout. Vraiment, moi, j'aime beaucoup les frigos. J'aime les gens qui sont aussi en tant qu'artistes. Je les trouve en plus assez balèzes, bien plus qu'on ne nous le laisse croire. Les artistes que je vois ici et des fois ceux que je vois ailleurs, je me dis, on pourrait les remplacer. Mais encore faudrait-il qu'on l'exporte, qu'on sache le montrer, qu'on sache nous porter aussi et qu'on nous mette en valeur, ce qui n'est pas le cas.
Ouais. Donc, parce que du coup, les gens que vous exposez dans la galerie, c'est des gens du frigo ou
non, il y a de tout. Il y a aussi beaucoup de gens des frigos. Je pense qu'on a dû à peu près exposer à peu près au moins une fois, collectivement ou personnellement, tous les artistes des frigos, à peu de choses près. Mais pas que. Donc, on choisit aussi...
C'est toi qui choisis ?
Alors, à une époque, c'était pas moi. À une époque, c'était Corinne et un autre groupe. À une époque, on a été plus. Maintenant, ça a tourné. Maintenant, je suis revenue vraiment en permanente. J'ai été engagée. On a fait la vraie démarche volontaire de me prendre en tant que permanente. Et un lieu comme ici a besoin d'une permanente ou d'un permanent.
C'est
essentiel pour donner l'impulsion, pour être présent sur le terrain, pour développer les projets, pour aider aux dossiers de subvention, pour accueillir même simplement les gens qui sont là.
Parce que la galerie, elle est ouverte comment ?
Elle est ouverte tous les jours de 13h à 19h, du mardi au samedi. Et on est fermé, nous, la galerie, le lundi et le dimanche.
Ouais.
Et par contre, le restaurant, la partie d'espace restauration, lui est ouvert tous les jours de midi à 15h.
D'accord.
Et lui, pas le samedi, pas le dimanche, pas le soir, que le midi. Pour créer aussi cet espace de vie et surtout aussi apporter de quoi financer à minima le loyer, par exemple. Au même titre que les privatisations avec les entreprises environnantes permettent de payer mon salaire. C'est à minima plus les charges sociales.
Et comment ça se passe si tu changes d'artiste tous les combien dans la galerie ?
Oh, c'est à peu près un mois et demi.
Ouais.
Là, maintenant, étant moi-même beaucoup dans ce milieu, ma sœur étant occupée du coup à gagner sa vie ailleurs. Donc, du coup, il se trouve, et moi qui vais aux expos, quand même, vais beaucoup aux expos, lis les bouquins d'art, continue à créer, continue à être peintre, bon, même si j'ai moins le temps. Donc, on s'est fait une répartition, mais à chaque fois, de toute façon, d'abord, elle m'envoie aussi des pistes. Elle dit, ah, j'ai vu un mec qui a l'air vachement bien, ou un peintre, ou machin, qui m'a dit que... et moi, je lui dis, ah, regarde, on m'a parlé de ça, ça, qu'est-ce que t'en penses, le festival Fémixité. Ça se fait toujours, de toute façon, en concertation. J'arrive pas en disant, voilà, j'ai fait un truc dont elle n'est pas au courant. Oui, j'essaie toujours d'avoir son aval, de l'intéresser, de faire en sorte qu'elle ait envie aussi, elle, et réciproquement. Là, par exemple, c'est une rencontre du hasard, c'était très chouette.
Donc mais là, parce c'est quel
que artiste, j'étais là. Là, on est Mr Beast.
Oui.
Le Mr Beast par Mr Beast. Donc, je ne dévoilerai pas son vrai nom puisque c'est un pseudo. Et qu'il est souvent caché avec un masque de cache et qu'il est cataphile et qu'il va aussi dans les catacombes, il tague. Donc, il tient aussi à une espèce d'anonymat, entre guillemets. Mm. Et donc, le samedi 11, par contre, on va faire...
samedi 11 octobre.
Samedi 11 octobre, on va faire une projection là d'un film qui a été fait sur lui, où on le voit dans ses arcanes, dans ses trucs de catacombiste, de cataphile plutôt. On le voit aussi créer, il explique sa démarche, on le voit à visage plus ou moins découvert. Donc là, nous allons révéler le mystère, la véritable identité de Mr Beast va être... Et je t'invite, ainsi que tous les autres, à venir. On va ouvrir le bar, ça va être très sympa. Et ça clôt la fin du Mr Beast, de cette fameuse exposition autour des arthropodes et de son univers très particulier quand même. Et son talent, moi j'aime beaucoup ce que fait ce mec aussi.
Super,
mais et ça, tu vois, c'est un mec, et ben, il est arrivé avec son bouc sous le bras. Si je n'avais pas été là pour faire mes permanences, ben, on l'aurait loupé. Et c'est dommage. Mmh. Donc de toute façon, pour toutes les associations ou tout ce qui est à but non lucratif, la permanence et les contrats aidés, c'était vraiment un truc indispensable. Ça a permis à des musées, à des petites structures en province, associatives, artistiques, sportives, ou participatives, ou de solidarité, d'engager enfin ce qu'ils n'avaient pas les moyens, normalement. Ouais. C'est-à-dire, vu maintenant le coût du travail, avec les charges sociales, les normes, les SMIC, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, certes, dans le monde capitaliste, mais pour les mondes associatifs, c'est extrêmement dur d'accéder à ce niveau-là. C'était génial, les contrats aidés.
Et du coup, comment t'es rentré dans les arts? C'est quoi ton histoire?
Comment te dire? On vient pas d'un milieu d'artiste, ça c'est clair. C'est pas un truc qu'on nous aurait refilé ou on nous a aidé beaucoup. Par contre, en même temps, comme il y avait quand même, les chiens ne faisant pas des chats, une fibre artistique, même enfouie, même décriée, même cachée. Moi, j'ai appris on était fous de cinéma, de littérature, et quand même moins d'art, mais quand même... d'un milieu quand même ouvert sur l'art, même si on n'était pas du tout de ce milieu-là et que ça n'a pas rien, tu vois. Moi, j'ai appris le cinéma sur les genoux de mes parents, en allant voir tous les films de la Terre depuis toute petite, et ça a été un ferment fédérateur de nos liens familiaux, affectifs. Corinne, elle a pris la photo, c'est papa qui lui a appris avec les bains, les machins, qui lui a payé ses premiers appareils, machin. Donc, tout en déniant le truc qu'en fait, vous n'avez surtout pas en faire un métier. Donc ça, c'était un métier pourri, c'était un métier de saltimbanque. Non, ni mon autre sœur. C'était hors des questions de faire des études de toute façon déjà, ce qui était assez bizarre et assez paradoxal vu qu'on est quand même d'un milieu... Enfin, la plupart des gens espèrent que leurs enfants... nous, on est tombés sur une famille où les études, c'est un truc nul. Mon père, en ayant quand même fait des études, en plus, seul, en chiant aux arts et métiers conservatoires, par lui-même, en accédant petit à petit, en grattant, devenant ingénieur, PDG à la fin de sa vie. Donc, tout ce qu'il aurait aimé qu'on l'aide aussi, peut-être, son milieu lui porte. Mais non, dans ce sens-là, je sais pas pourquoi, c'est les familles. Bref. Donc, moi, très vite, je me suis quand même rendu compte, vu ma nature assez fantasque et mon imaginaire qui était fort, et que j'avais besoin, moi, de m'échapper dans des royaumes, j'avais besoin de liberté, j'avais besoin de créer. Et donc, assez vite, vers 17 ans, moi, je voulais faire les beaux-arts, hein, en fait, dessiner et tout ça. Bon, ça n'a pas été reçu comme demande. Donc, comme à l'époque, les beaux-arts, il fallait quand même faire une prépa et que ça coûtait une blinde. Plus, les copines, elles avaient non seulement la prépa, puis le petit appartement, tu sais, qu'ils font bien.
Eh oui.
Donc, les copains bourgeois qui crachaient sur les beaux-arts, j'ai juste envie de les tuer. Non, les beaux-arts, c'est nul. Ah, dis pas ça, je vais te tuer. C'est juste mon rêve, quoi. Et ça, non. Donc, je me suis retrouvée à faire des petits boulots de merde. Et puis, comme je pouvais pas faire ce à quoi j'aspirais tellement fort, j'ai décidé de faire un truc encore plus farfelu. Et j'ai décidé que je serais réalisatrice. Mais au moins, là, il n'y avait pas de prépa, je pouvais rentrer directement à l'EFAC. Et après, j'ai travaillé 10 ans dans le cinéma.
D'accord.
Et comme technicienne et en essayant d'être réalisatrice.
T'as réalisé un film ?
Plusieurs, oui, mais pas en long métrage, malheureusement. J'ai fait des clips, j'ai fait du documentaire. Ouais. Et puis, j'ai travaillé aussi beaucoup comme technicienne. Et puis, j'ai vu surtout des milliers, des milliers et des milliers de films. Et je continue de voir tous les films. Et j'adorais ça. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes. C'était très cher. Je venais pas d'une famille qui venait de là. Et à l'époque, c'était vraiment le piston aussi. Et surtout, tout coûtait une blinde. On tournait en 35, en 16. Donc, si tu n'étais pas, tu vois, nanti ou pistonné, ou peut-être avec la chance aussi, et que tu n'étais pas non plus un mec, parce que ça, ça jouait aussi. Il n'y avait pas beaucoup de femmes réalisatrices. Il y avait des monteuses, il y avait des scripts, il y avait des costumières, il y avait des chefs d'écho. Mais réalisatrices dans le cinéma français, il n'y en avait pas tant que ça. Et puis, il n'y avait pas la vidéo. Donc là, à l'heure actuelle, moi, il y aurait la 4D, je pense que je serais encore dans le cinéma, bien sûr.
Oui.
Bah oui, j'aurais fait même du cinéma expérimental, artistique, plasticien, ou ce que tu veux. Mais moi, j'aimais raconter des histoires, j'aimais la fiction. Donc tout ça, ça coûtait tellement cher que personne n'allait me donner quoi que ce soit pour me financer mes délires à moi. Donc voilà. Puis après, il y a eu la bascule du graphisme. Ma sœur a monté son studio photo. Je suis passée à la PAO. Et c'était une façon aussi de rester dans l'audiovisuel, l'image, le son, la typo, l'organisation. Ouais. Et puis après, un jour, j'ai eu envie de me lancer dans la vraie matière, puisqu'ici, tout le monde crée. J'ai dit, pourquoi je serais pas peintre abstrait?
Parce que tu étais déjà au frigo à ce moment-là.
Oui, et peintre, why not, quoi, tu vois, après tout.
Parce que tu y es rentrée à quel moment, au frigo?
Il y a 20 ans, à peu près.
Donc, quand tu étais encore dans le cinéma?
Est-ce que j'étais encore dans le cinéma ou est-ce que j'avais... Non, je crois que je commençais à... Ça devenait vachement dur d'en vivre. C'était de plus en plus la cata, oui. Financièrement. Et surtout, je me suis dit que j'allais devenir folle de frustration parce que je passais 99% de mon temps, enfin 90% de mon temps à essayer de monter mes projets et à développer et 10% de mon temps à créer vraiment. Et moi, je voulais l'inverse parce que ça me rendait dingue. Du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire où je crée... En fait, 80% de mon temps et 20% de développement et ça coûte pas une thune. Il y a eu deux choses, ou l'écriture, ou la peinture, ou le ouais. dessin. Ça coûte que dalle, peu de matériel. En plus, je fais des pigments, des colles à bois en papier peint, c'est pas cher. Et je me suis dit, bah voilà, je vais faire ça. Et avant, il y avait eu l'époque aussi de la PAO, ma sœur qui avait son studio, et ça me permettait de gagner ma vie. Mais en fait, l'idée, c'était comment je peux créer librement, en étant juste limité par mes propres limites de puissance, de talent, de capacité, sans dépendre horriblement d'autrui pour tout, pour avoir la permission juste d'imaginer que je peux créer et de commencer et d'être très vite restreinte. Là, au moins, les limites, il n'y a que les miennes, que mon talent, ma puissance, mon envie, mon désir, ma force. C'est rien d'autre que moi qui m'empêchera d'aller là où je veux aller.
Et donc, t'es rentrée au frigo parce que tu connaissais du monde?
Ben non, par ma sœur. Elle cherchait son studio de photos et on a atterri dans le truc tout pourri. Et après, ça a fait faillite. Du coup, moi, j'ai récupéré le lieu. Je suis devenue peintre. Enfin, voilà. Et j'ai appris la PAO grâce aussi à cette opportunité qu'elle avait et qu'il y avait une vraie demande. Et j'ai sans doute peint parce que j'étais au frigo. Sinon, je crois que j'aurais jamais eu l'audace, vu que je n'avais aucune étude, aucune formation et que j'avais pas dessiné, de me lancer dans la peinture. C'est complètement... Mais ici, tout le monde crée... Et peignait comme il respirait, donc ça m'a pas paru être un truc super transgressif ou impossible.
Ouais. Et t'as pas pensé à un moment donné quand t'as dû te renouveler à tenter les beaux-arts ou
mais,
une école
enfin, et ben non. C'était ton rêve. Et alors là, tu vois, c'est là les omertas familiales et les interdits familiaux que tu t'imposes. J'ai mis 50 ans à me donner l'autorisation de prendre des cours de dessin.
Ah, c'est drôle.
Tu te rends compte
c'est
de
drôle.
Ça
C'est pas fort. Franchement,
non, c'est... et je l'ai fait quand j'étais en plein divorce et hyper malheureuse. Et je me dis, dans la merde qu'est ma vie, l'effondrement total de tout mon monde et tout ce qui se passe, etc., qu'est-ce que je pourrais me donner qui me ferait plaisir ou qui m'apporterait un peu de bonheur dans ce merdier général qu'est ma... et un rêve comme ça qui serait possible en plus. Tu vois, pas faire un film de long métrage. Ça, je savais que c'était, savoir dessiner. J'ai toujours rêvé de savoir dessiner. Vas-y, ma poule. Là, c'est le moment,
Et t'as pris des cours?
Ouais. J'ai pris des cours de modèle vivant. J'ai pris à la Grande Chaumière. Ouais. C'est une très bonne école d'apprentissage. Le modèle vivant, l'anatomie. J'étais pas douée, d'ailleurs, spécialement, faut bien le dire. Et puis, bien bloquée. Parce que l'enjeu, tu vois, ce qu'il était. Comme il était fort, quand même. C'était mon rêve, quand même, ça. Et j'ai eu un prof génial aussi après. Mais vraiment particulier, là, j'ai payé, je me suis fait, et on a fait tous les trucs qui bloquaient, et maintenant, je sais dessiner. Alors, évidemment, je ne rattraperai jamais les 5 ans d'études aux Beaux-Arts, 8 heures par jour, avec un milieu super stimulant, des échanges, des profs, ça reste un regret, de toute façon. Et quand je passe, chaque fois que je passe devant les Beaux-Arts, j'ai quand même un peu limite les larmes aux yeux en me disant, j'ai raté un rendez-vous, là. Mais bon, voilà, dans cette vie, en tout cas. Mais c'est comme ça. Bon, voilà. Je me démerde, j'ai un style, je suis pas trop mauvais dans le dessin, Maintenant, je suis à peu près capable de dessiner à peu près ce que je veux sur les perspectives, les trucs, les portraits, les visages, l'anatomie. Je peux encore me perfectionner. Je m'étais donné 3 ans, je m'étais donné 5 ans. Et en fait, en 3 ans, ça va à peu près me démerder. Donc,
ah ouais?
Oui. Mais j'ai pas fini. C'est-à-dire, je continue.
Tu continues à apprendre.
Ah, mais j'adore. Puis là, on a des cours en ce moment avec Flammarion et les dessinateurs de BD, avec les modèles vivants. Je te raconte pas quand je me régale.
Qui viennent au frigo?
Oui.
Super.
Oui. Donc, j'ai pas non plus terminé cette histoire, hein. Mais pas plus que j'ai terminé complètement l'histoire du cinéma. Un jour, je me dis, on sait jamais. Il y aura peut-être l'occasion, alors, là, pas de faire carrière, mais une opportunité, un projet, un sujet suffisamment fort, et puis maintenant avec assez d'énergie, de fougue, de passion et de confiance en moi aussi, pour porter vraiment un truc jusqu'au bout, et qui sait, on est moins bien que moi, qui arrive bien à mener un projet, donc, et moins intéressant, pourquoi pas moi? Au moins faire one shot avant de mourir, one long métrage, quoi, tu vois, sur une passion, donc les femmes peintres, vraisemblablement.
Alors, ça veut dire que c'est une... C'est une femme qui expose à la prochaine...
Non, parce qu'on n'est pas, justement... L'art, pour moi, n'est pas sexué. La discrimination est sexuée. L'omerta, l'invisibilité est sexuée. Mais pas l'art. L'art, moi, quand je crée, je suis mâle et femelle. Et, tu vois, je me sens pas spécialement faire un art dit féminin. C'est pas ça, mes critères. Je vais aider le féminisme par d'autres voies. Mais je veux pas dévoyer... être obligé de déformer, pas de la dévoyer, mais déformer ma recherche, par exemple, d'artiste, sous prétexte que c'est un homme ou une femme. Parce que c'est aussi une forme, en fait, de discrimination encore. Moi, j'aime l'art en général. Après, par contre, je peux aider les femmes qui sont artistes et faire un film pour la promouvoir ou faire que la galerie fasse état des discriminations, comme on va le faire pour le festival Fémixité.
Ça, c'est quand?
Ça, c'est en mars.
Le 8 mars, j'imagine.
Alors non, justement, on est un peu décalé. On est sur le 21 et 22, où là, il y aura un vrai travail conjointement avec d'autres associations féministes et une exposition. Et où là, on va faire un vrai travail de veille là-dessus avec, entre autres, j'espère, l'association qui a créé les journées du matrimoine, avec l'association Hommes, Égalité Hommes-Femmes Île-de-France.
Ok. Et si je suis artiste et que le lieu me plaît bien, pour avoir des choses d'exposées, qu'est-ce que je fais?
Tu couches. Non, je plaisante. Tu donnes de l'argent. Non, je plaisante aussi. Ben écoute, déjà, tu nous montres un dossier.
Je viens
nous envoies. Pas forcément, tu m'envoies un dossier, tu me contactes par Internet. Alors, soit tu passes, parce que ça se passe aussi comme ça, soit les gens m'envoient un mail et je demande 5-6 visuels, 2 ou 3 trucs qui expliquent ton parcours. Et après, je vois si ça rentre ou pas dans ce qu'on aime, dans ce qui peut être aussi le cadre... de notre lieu, de son esprit, et puis après, ben, je t'appelle, et puis on se rencontre, j'ai dit de passer, on blablate, on regarde les dates, on va dire, oh là, il y a un trou, ou là, il y en a pas, oh merde, tout est bouqué, et puis, okay. Voilà, ça se fait d'une façon quand même assez, je dirais, classique et informelle en même temps, enfin, tu vois, c'est... J'ai pas une feuille de route et une vision éditoriale de la galerie de folie où je ne ferais que ce courant-là et pas celui-là. Moi, je suis très éclectique en art. Moi, je suis monomaniaque dans ce que je fais. Je suis sérielle en tant qu'artiste. Mais par contre, j'aime beaucoup de choses en art. Vraiment. C'est très, très diversifié. Je crois qu'en peinture, j'ai quand même un champ, autant en littérature, ça peut être plus pointu, ou en cinéma aussi. Bon, en peinture, putain, j'aime vraiment des tas de choses différentes. C'est pour ça que j'aime bien aussi exposer et me consacrer à autrui. C'est que j'aime l'art des autres. Enfin, j'aime l'art tout court, le mien, mais ceux des autres aussi, l'art en général. Je suis une passionnée de ça, j'ai plein d'affinités, j'adore la beauté, tout ça. Il y a les arcanes, les mondes magiques, souterrains, plastiques, tout ça, moi, ça me parle, ça me... C'est une de mes raisons de, sinon de vivre, mais du moins de m'éclater, d'être heureuse, ça me nourrit. Moi, je suis faite pour ça, voilà. Je suis pas trop mauvaise, en plus, là-dedans, les autres domaines. Je convainc personne, je me fais virer au bout de 3 jours. Quand j'essaye d'être normale, ou crédible. Et puis, j'ai un trop sale caractère, des fois aussi, où je suis trop, indomptable, ou sauvage, ou je sais pas, ou inadapté, selon qui vous place le curseur. Et au moins, là, je me sens utile et bien. Et pas trop mauvaise, donc c'est agréable, quoi. Et si je pouvais, j'avais pas gagné ma vie, j'aimerais bien faire que ça et voyager, hein, personnellement. Ou m'occuper d'une galerie, à mi-temps, tu vois. Mais c'est chouette aussi de porter ça, parce que j'adore ce que font les autres et quelque part, c'est quand même avec les artistes que je me retrouve, dans ma famille et dans ma communauté de pensée, de mode de vie, tout en ayant une grande diversité de profils. Parce que c'est vrai que c'est comme un peu les intermittents du spectacle. Il y a des choses qui nous fédèrent, dans ce qu'on a acheté, dans ce qu'on a gardé, dans ce qu'on aime. mais aussi t'as plein de gens différents, plein de personnalités, de parcours, toi comme l'autre avec ses arcanes, les trucs à ta fille, les insectes, les machins, et qui te raconte, il va m'emmener dans les catacombes. Du coup, à chaque fois, c'est des expériences et un partage existentiel.
Oui.
Et c'est ça que j'aime bien, ou comme avec toi, où on discute, toi on parle de choses essentielles, on va pas parler de conneries, de la mode, de ce que t'as acheté, ou voilà, on parle des choses qui sont importantes dans la vie, et on échange qui nous tient à cœur. Et donc ce lieu, pour moi, il doit être de plus en plus, de moins en moins une galerie, de plus en plus un tiers-lieu. On gardera le vecteur artistique, est-ce qu'on est.
Parce mais que vous vendez les pièces des artistes.
Oui, bien sûr. Enfin, on essaye.
Vous prenez un pourcentage.
Oui, oui. Malheureusement, parce que j'aimerais bien, moi, si on pouvait avoir un équilibre où on ne prendrait même plus de pourcentage, et que l'artiste, c'était tellement dur d'en vivre, et l'intégralité de ce qui, alors, ou 10% pour couvrir les frais, tu vois.
Oui.
Dans l'idéal, moi, je voudrais que ce soit ça. Là, maintenant, on peut pas se le permettre.
Pour l'instant, vous faites quoi, 50%?
Non, on veut pas faire 50% parce qu'on trouve que c'est immoral. Et on fait, à une époque, on faisait jusqu'à présent des 30%, et des fois 35%. Et maintenant, on a décidé qu'on faisait 40%, entre autres, pour prendre en charge les frais qu'ont les artistes. Donc, on participe. Les 10% qu'on prend pas, c'est les 10% qu'on met pour aider les artistes. Parce qu'on sait que les artistes ont forcément des frais.
Oui.
Que ce soit les photographes, les peintres,
les
il a payé tous ces trucs, les cadres. Donc on dit, normalement, on aimerait bien vous prendre moins, mais comme on est dans la mer, on peut pas faire autrement. Mais on vous prend pas 50 parce qu'on estime que c'est indécent. Et qu'on vous prend 40 et vous en avez 60. Et les 10%, c'est notre participation dans l'expo pour vous aider à faire le truc. Même si c'est pas assez, c'est déjà ça.
Et la prochaine exposition, c'est de qui alors?
Eh ben, c'est ce fameux collectif Regard Croisé de street photo.
Ah non, pardon, non,
c'est en non. Le vernissage, je crois que c'est le 19-20, le temps qu'ils installent, qu'ils fassent le truc. Et le festival proprement dit, c'est sur un week-end avec le concours photo, les lectures de book, l'expo, tout le truc. Mais nous, ça dure plus longtemps parce qu'on veut pas que, enfin, tu vois, on fait pas tout ce truc, c'est que les gens prennent le temps, voient les photos, s'intègrent et tout. Et ça dure à peu près un mois.
Parfait. Et du coup, si je veux avoir un peu les infos de l'aiguillage, il y a un site internet?
Oui, absolument. Alors, il s'appelle aiguillagegalerie.com.
D'accord.
C'est pas compliqué avec les W avant.
Il y a un réseau social?
Oui, alors le Facebook, je m'en souviens jamais. Donc, je crois que c'est Aiguillage Frigo. Corinne Frigo aussi, parce qu'on n'a jamais réussi à se mettre d'accord avec ma sœur pour avoir le même Facebook, parce qu'elle n'est pas d'accord sur ce que je publie. Et puis moi, je publie pas du même ton qu'elle.
Ouais.
Et on a décidé que c'était bien. Ça nous représentait aussi dans notre diversité,
super.
Notre dichotomie, tout en ayant les choses aussi... on est très complémentaires aussi.
Ok. Bon, moi, je mettrai ça sur
Je crois qu'il y a un Aiguillage Frigo, un Isabelle Frigo, et doit y avoir un Corinne Aiguillage. Mais en tout cas, le site, lui, c'est clair, c'est
okay,
ça. Et l'aiguillage frigo, il est pas mal quand même.
Bon, parfait. Merci, Isabelle.
Mais écoute, je t'en prie, t'as un plaisir.
Moi aussi.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à l'interviewer dans ses réseaux sociaux. Je vais mettre les liens en description. Ça lui fera super plaisir. Ça permet de faire savoir que l'art, c'est les autres, est écouté. Et puis vous-même, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à faire des feedbacks, c'est hyper important pour moi. À proposer des invités aussi, ou des sujets qui vous intéressent. Et puis je ferai mon possible pour vous répondre et échanger avec vous. Si vous êtes artiste et que vous avez envie de nous rejoindre dans le collectif Pigeon et Hirondelle, n'hésitez pas à nous laisser un message sur Instagram ou sur Facebook. Donc pigeon.hirondelle. Le tout au pluriel, ou bien sur notre site www.pigeon-hirondelle.fr. On sera super content d'en parler avec vous, de vous présenter toutes nos actions et pourquoi pas de vous compter parmi nous. Si vous connaissez quelqu'un à qui ce podcast peut plaire, je vous invite évidemment à le partager sur les réseaux. Ça permet à de plus en plus de gens de connaître le podcast. Et puis moi, ça me fait du bien. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.